85. Halle le bout à bord, Goulven. C'était dans un accostage difficile. Je venais avec un canot du Primauguet aborder un bâtiment baleinier d'allure suspecte qui ne portait aucun pavillon. Dans l'océan austral, toujours, auprès de l'île Tongatabou, du côté du vent. Le Primauguet, lui, était mouillé dans une baie de l'île, en dedans de la ligne des récifs, à l'abri du corail. L'autre, le baleinier, s'était tenu au large, presque en pleine mer, comme pour rester prêt à fuir, et la houle était forte autour de lui. On m'envoyait en corvée pour le reconnaître, pour l'arraisonner, comme on dit dans notre métier. « Halle à bord, Goulven, halle !» Je levais la tête vers l'homme qui s'appelait Goulven. C'était lui qui, du haut du navire équivoque, tenait la mare qu'on venait de me lancer. Et je fus saisi de cette figure, de ce regard déjà connu. C'était un autre Yves, moins jeune, encore plus basané, plus athlétique peut-être, les traits plus durs, ayant plus souffert, mais il avait tellement ses yeux, son regard, que c'était comme un dédoublement de lui-même qui m'impressionnait. Quelquefois j'avais pensé, en effet, que nous pourrions le rencontrer, ce frère Goulven, sur quelqu'un de ces baleiniers que nous trouvions, de loin en loin, dans les mouillages du grand océan, et que nous arraisonnions quand ils avaient mauvais air. J'allais à lui d'abord sans m'inquiéter du capitaine, qui était un énorme Américain, à tête de pirate, avec une longue barbe épaisse comme le goémon. J'entrais là comme en pays conquis, et les convenances m'importaient peu. « C'est vous, Goulven Kermadec ?» Et déjà je m'avançais en lui tendant la main, tant j'en étais sûr. Mais lui blanchit sous son hâle brun et recula. Il avait peur. Et par un mouvement sauvage, je le vis qui rassemblait ses poings, raidissait ses muscles, comme pour résister quand même dans une lutte désespérée. Pauvre Goulven, cette surprise de m'entendre dire son nom, et puis mon uniforme, et les 16 matelots armés qui m'accompagnaient, il avait cru que je venais au nom de la loi française pour le reprendre, et il était comme Yves, s'exaspérant devant la force. Il fallut un moment pour l'apprivoiser, et puis quand il sut que son petit frère était devenu le mien, et qu'il était là sur le navire de guerre, il me demanda pardon de sa peur avec ce même bon sourire que je connaissais déjà chez Yves. L'équipage avait singulière mine. Le navire lui-même avait les allures et la tenue d'un bandit, tout léché et raillé par la mer depuis 3 ans qu'il errait dans les houles du grand océan, sans avoir touché aucune terre civilisée, mais solide encore, et taillé pour la route. Dans ses haubans, depuis le bas jusqu'en haut, à chaque enfléchure, pendaient des fanons de baleines pareils à de longues franges noires. On eût dit qu'il avait passé sous l'eau et s'était couvert d'une chevelure d'algues. En dedans, il était chargé des graisses et des huiles des corps de toutes ces grosses bêtes qu'il avait chassées. Il y en avait pour une fortune, et le capitaine comptait bientôt retourner en Amérique, en Californie, où était son port. Un équipage mêlé, 2 Français, 2 Américains, 3 Espagnols, 1 Allemand, 1 Mousse Indien et 1 Chinois pour la cuisine. Plus une chola du Pérou, à demi nue comme les hommes, qui était la femme du capitaine et qui allaitait un enfant de 2 mois conçu et né sur la mer. Le logement de cette famille, à l'arrière, avait des murailles de chêne épaisses comme des remparts et des portes bardées de fer. Au-dedans, c'était un arsenal de revolvers et de coups de poing et de casse-tête. Les précautions étaient prises. On pouvait, en cas de besoin, tenir là un siège contre tout l'équipage. D'ailleurs, des papiers en règle. On n'avait pas hissé de pavillon parce qu'on n'en avait plus. Les cafards avaient mangé le dernier, dont on me fit voir les lambeaux en s'excusant. Il était bien aux couleurs d'Amérique, rayé blanc et rouge, avec le yak étoilé. Rien à dire. C'était en somme correct. Goulven me demandait si je connaissais Plouerzel, et alors je lui contais que j'avais dormi une nuit sous le toit de sa vieille mère. « Et vous, dis-je, n'y reviendrez-vous jamais ?» Il souffrait encore et très cruellement à se souvenir. Je le voyais bien. « C'est trop tard à présent. Il y aurait ma punition à faire à l'État, et je suis marié en Californie. J'ai 2 enfants à Sacramento. Voulez-vous venir avec moi voir Yves ?» « Venir avec vous ?» répéta-t-il bas, d'une voix sombre, comme très étonné de ce que je lui proposais, « venir avec vous, mais vous savez bien que je suis déserteur, moi. » À ce moment, il était tellement ivre, il avait dit cela tellement comme lui, qu'il me fit mal. Après tout, je comprenais ses craintes d'homme libre et jaloux de sa liberté. Je respectais cette erreur de la terre française, car c'est une terre française que le pont d'un navire de guerre. À bord du Primauguet, on était en droit de le reprendre. C'était la loi. Au moins, dis-je, avez-vous envie de le voir? Si j'ai envie de le voir, mon pauvre petit Yves. Allons, c'est bien, je vous l'amènerai. Quand il viendra, je vous demande seulement de lui conseiller d'être sage. Vous me comprenez, Goulven? Ce fut lui alors qui me prit la main et la serra dans les siennes. 86. J'avais accepté de dîner le lendemain chez ce capitaine baleinier. Nous nous étions convenus à merveille. Il n'avait rien de la manière des hommes policés, mais il n'était nullement banal. Et puis surtout, c'était le seul moyen pour moi d'amener Yves à son bord. Je m'attendais un peu le lendemain matin, au jour, à trouver le baleinier disparu, envolé pendant la nuit comme un oiseau sauvage. Mais non, on le voyait là-bas à son poste, au large, avec toutes ses franges noires dans ses haubans, se détachant sur le grand miroir circulaire des eaux, qui était ce jour-là immobile et lourde, et poli comme des coulées d'argent. C'était sérieux, cette invitation, et on m'attendait. Par précaution, le commandant avait voulu que les canotiers qui me mèneraient fussent armés et restassent là tout le temps avec moi. Justement, cela tombait à merveille pour Yves, et je le pris comme patron. 87. Le capitaine me reçoit à la coupée, en tenue assez correcte de Yankee. La chola, transformée, porte une robe en soie rose avec un collier magnifique en perles des îles Pomotou. J'admire combien elle est belle et combien sa taille est parfaite. Nous voici dans le logis aux étonnantes murailles bardées de fer. Il y fait sombre et lourd, mais par les petites fenêtres épaisses, on voit resplendir des choses qui semblent enchanter. Une mer d'un bleu laiteux et d'un poli de turquoise, une île lointaine, d'un violet rose d'iris, et de tout petits nuages orangés flottant dans un profond ciel d'or vert. Après, quand on a détourné les yeux de ces petites fenêtres ouvertes, de ces contemplations de lumière, on retrouve plus étrange le logis bas, irrégulier, sous ses énormes solives, avec son arsenal de revolvers, de coups de poing, de lanières et de fouets. On mange à ce dîner des conserves de San Francisco, des fruits exquis de l'île Tongatabu, des aiguilles qui sont de petits poissons fins des mers chaudes. On boit des vins de France, du pisco péruvien et des liqueurs anglaises. Le chinois qui nous sert est en robe de soie d'un violet d'évêque et porte des souliers à haute semelle de papier. La chola chante une samacueca du Chili en pinçant sur sa diguela une sorte d'accompagnement qui semble le dandinement monotone d'une mule au trot. Les portes de la forteresse sont grandes ouvertes. Grâce à la présence de mes 16 hommes armés, règne une sécurité, une intimité paisible, qui sont vraiment fort touchantes. À l'avant, les hommes du Primauguet boivent et chantent avec les baleiniers. C'est fête partout, et je vois de loin Yves et Goulven, qui ne boivent pas, eux, mais qui font les 100 pas en causant. Goulven, le plus grand, a passé son bras sur les épaules de son frère qui le tient, lui, autour de la taille. Isolés tous deux au milieu des autres, ils se promènent en se parlant à voix basse. Les verres se vident partout dans des toasts bizarres. Le capitaine, qui d'abord ressemblait à la statue impassible d'un dieu marin ou d'un fleuve, s'anime, rit d'un rire puissant qui fait trembler tout son corps. Sa bouche s'ouvre comme celle d'un cétacé, et le voilà qui dit en anglais des choses étranges, qui s'oublie avec moi dans des confidences à le faire pendre. Sa conversation tourne en douce causerie de pirate. La chola, rentrée dans sa cabine, en fait venir un matelot tatoué qu'on déshabille au dessert. C'est pour me montrer ce tatouage qui représente une chasse aux renards. Cela part du cou, des cavaliers, des chiens qui galopent, descendent en spirale autour du torse. « Vous ne voyez pas encore le renard ?» me demanda le capitaine, avec son plus joyeux rire. « Cela va être si drôle, paraît-il, la découverte de ce renard qui n'en est pas mis d'avance. Et il fait tourner l'homme, déjà ivre, plusieurs fois sur lui-même pour suivre cette chasse qui descend toujours. Aux environs des reins, cela se corse, et on prévoit que cela va finir. « Et le voilà, le renard !» crie le capitaine à tête de fleuve, au comble de sa gaieté de sauvage, en se renversant, pâmé d'aise et de rire. La bête poursuivie se remisait dans son terrier. On n'en voyait que la moitié. Et c'était la grande surprise finale. On invita ce matelot à toaster avec nous, pour sa peine de s'être fait voir. Il était temps d'aller prendre sur le pont un peu d'air pur, l'air frais et délicieux du soir. La mer, toujours aussi immobile et lourde, luisait au loin, reflétant de dernières lueurs du côté de l'ouest. Maintenant, les hommes dansaient au son d'une flûte qui jouait un air de gigue. En dansant, les baleiniers nous jetaient de côté des regards de chat, moitié timidité curieuse, moitié dédain farouche. Ils avaient de ces jeux de physionomie que les coureurs de mer ont gardés de l'homme primitif. Des gestes drôles à propos de tout, une mimique excessive, comme les animaux à l'état libre. Tantôt ils se renversaient en arrière tout cambrés, tantôt, à force de souplesse naturelle et par habitude de ruse, ils s'écrasaient en enflant le dos, comme font les grands félins quand ils marchent à la lumière du jour. Et ils tournaient tous au son de la petite musique flûtée, du petit turlututu sautillant et enfantin. Très sérieux, faisant les beaux danseurs, avec des poses gracieuses de bras et des rondes jambes. Mais Yves et Goulven se promenaient toujours enlacés. Ils se hâtaient pour tout ce qu'ils avaient encore à se dire. Ils pressaient leur entretien dernier et suprême, comprenant que j'allais partir. Ils s'étaient vus une fois, 15 ans auparavant, alors qu'Yves était petit encore, pendant cette journée que Goulven était venu passer à Plouerzel, en se cachant comme un banni. Et sans doute, il ne se retrouverait jamais plus. On vit tout à coup deux de ces danseurs, qui se tenaient par la taille, se jeter à terre, toujours serrés l'un contre l'autre, et puis se débattre, râler, pris d'une rage subite. Ils cherchaient à s'enfoncer leurs couteaux dans la poitrine, et le sang faisait déjà sur les planches des marques rouges. Le capitaine à tête de fleuve les sépara en les cinglant tous deux avec une lanière en cuir d'hippopotame. « No matter, dit-il, they are drunk. Ce n'est rien, ils sont ivres. » Il était temps de partir. Goulven et Yves s'embrassèrent, et je vis que Goulven pleurait. Comme nous revenions sur la mer tranquille, les premières étoiles australes s'allumant en haut, Yves me parlait de son frère. Il n'est pas trop heureux. Pourtant, il ne gagne pas mal d'argent, et il a une petite maison en Californie, où il espère revenir. Mais voilà, c'est le mal du pays qui le tue. Ce capitaine m'avait juré de venir le lendemain avec la chola dîner à mon bord. Mais pendant la nuit, le baleinier prit le large, s'évanouit dans l'immensité vide, nous ne le vîmes plus. 88.
Vous êtes venu toucher votre délègue aussi, Madame Kemener? Et vous aussi, donc, Madame Cardoncuff? Où est-ce qu'il navigue aussi votre mari, Madame Kemener? En Chine, Madame Cardoncuff, dessus le Kerguelen. Et le mien aussi, donc, Madame Kemener, il navigue là-bas, dessus la Vénus.
C'est dans la rue des Voûtes, à Brest, sous la pluie fine, que cela se chante à deux voix fausses, dans des tonalités surprenantes. Cette rue des Voûtes est toute pleine de femmes qui attendent là depuis le matin, à la porte d'une laide bâtisse en granit, la caisse des gens de mer. Femmes de Brest, que la pluie froide ne rebute plus, elles causent aigrement, les pieds dans l'eau, pressées contre les murs de la ruelle triste, sous le brouillard gris. C'est le premier jour du trimestre. Elles font queue pour être payées, et il était temps. L'argent manquait dans tous ces logis noirs de la grande ville. Femmes dont les maris naviguent au loin, elles vont toucher leur délègue, lisez délégation, la solde que ces marins leur abandonnent. Après, elles iront la boire. Il y a en face un cabaret qui est venu s'établir là tout exprès. C'est à la mère de famille, de chez Madame Pétavin. Dans Brest, on l'appelle le cabaret de la délègue. Madame Kemener, le visage plat comme un carlin, les mâchoires massives, le ventre en avant, porte un waterproof et un bonnet de tulle noir avec des coques bleues. Madame Cardoncuff, malsaine, verdâtre, un aspect de mouche à viande, montre une figure chafouine sous un chapeau orné de deux roses avec leur feuillage. À mesure que l'heure approche, la foule des ivrognesses augmente. La caisse est assiégée, il y a des contestations aux portes, le guichet va s'ouvrir. Et Marie, la femme d'Yves, est là aussi, dans cette promiscuité immonde, tenant le petit Pierre par la main. Un peu timide, se sentant triste, ayant une vague frayeur de toutes ces femmes, elle laisse passer les plus pressés et se tient contre le mur, du côté où la pluie ne donne pas.
« Entrez donc, ma petite dame, au lieu de faire mouiller comme cela ce joli petit garçon. »
C'est Madame Pétavin qui vient d'apparaître sur sa porte, très souriante.
« Faut-il vous servir quelque chose? Un peu de doux? Oh, merci, madame, je ne bois pas !»
répond Marie, qui, voyant le cabaret encore vide, est entrée tout de même, de peur de faire enrhumer son petit Pierre.
« Mais si je vous gêne, madame ?»
Assurément non, elle ne gênait pas du tout Madame Pétavin, qui avait l'âme bonne et qui la fit asseoir. Voici Madame Quéméneur et Madame Cardoncuff, les premières payées, qui entrent, ferment leurs parapluies et prennent place.
« Madame, madame, mettez un quart dans deux verres aussi, donc ?»
Inutile de dire un quart de quoi, c'est d'eau de vie très raide qu'il s'agit. Ces dames causent.
« Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari, sur le Kerguelen, Madame Quéméneur ?»« Il est chef de une, Madame Cardoncuff. »« Et le mien aussi, donc, il est chef de une, Madame Quéméneur. » Et... les femmes de chef peuvent bien trinquer ensemble. Alors, à la vôtre, Victoire Yvonne. »
Ces dames s'appellent déjà par leur petit nom. Les verres se vident. Marie tourne vers elles son regard clair, les dévisageant tout à coup avec une grande curiosité, comme on fait pour les bêtes de ménagerie. Et puis elle a envie de s'en aller. Mais dans la rue, la pluie tombe fort, et devant la porte de la caisse, il y a encore bien du monde.
« À la vôtre, Victoire Yvonne. À la vôtre, Françoise. »
Allons, le litre y passera. Ces dames se racontent leurs petites affaires. C'est dur tout de même pour joindre les deux bouts. Mais tant pis, le boulanger, lui d'abord, pourra bien attendre le trimestre prochain. Le boucher, eh bien, on lui donnera un acompte. Aujourd'hui, un jour de paye, comment ne pas s'égayer un peu?
Moi encore,
dit Madame Cardoncuff, avec un sourire de coquetterie plein de sous-entendus.
Je ne suis pas trop malheureuse. Parce que, voyez-vous, j'ai un vétéran que je loge en garni, qui est quartier-maître dans le port.
C'est compris. Même sourire sur le visage de Madame Quéméneur.
C'est comme moi, j'ai un fourrier. À la tienne, Françoise.
Ces dames se tutoient.
Il est polisson, mon fourrier, si tu savais.
Et le chapitre des confidences intimes est ouvert. Marie Kermadec se lève. A-t-elle bien entendu? Beaucoup de ces mots lui sont inconnus, assurément, mais le sens en est transparent et le geste vient à l'appui. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui peuvent dire des choses pareilles? Et elle sort sans se retourner, sans dire merci, rouge, sentant tout le sang qui lui est monté aux joues.
« As-tu vu celle-là, la mouche qui l'a piquée? Dame, vous savez, c'est de la campagne. Ça porte encore la coiffe de Banalec, ça n'a pas d'usage. À la tienne, Victoire Yvonne !»
Le cabaret se remplit. À la porte, les parapluies se ferment, les vieux waterproofs se secouent, toutes ces dames entrent, les litres circulent. Et au logis, il y a des petits qui piaulent avec des voix de chacal en détresse, des enfants hâves qui crient le froid ou la faim. Tant pis, à la tienne, c'est jour de paye. Quand Marie fut dehors, elle aperçut un groupe de femmes en grande coiffe qui étaient restées à l'écart pour laisser passer la presse des effrontés. Vite, elle vint prendre place parmi elles, afin de se retrouver en honnête compagnie. Il y avait là de bonnes vieilles mères de village, qui étaient venues pour toucher la délégation de leurs enfants, et qui se tenaient sous leur parapluie de coton, avec ces figures dignes, pincées, que se font les paysannes à la ville. En attendant son tour, elle lia connaissance avec une vieille de Kermézo, qui lui conta l'histoire de son fils, un canonnier de Lastrée. Il paraît que dans sa première jeunesse, il avait fait des tours comme Yves, et puis il était devenu tout à fait rangé en prenant de l'âge. Il ne fallait jamais désespérer des marins. C'est égal, dans son indignation contre ces femmes de Brest, Marie venait de prendre un grand parti, sans retourner à Toulven, coûte que coûte, et dès demain si c'était possible. Aussitôt rentrée au logis, elle se mit à écrire une longue lettre à Yves pour lui motiver sa décision. Il est vrai, le loyer de recouvrance courrait pendant encore 3 mois, et la petite maison de Toulven ne serait pas finie de longtemps. Mais elle rattraperait tout cela à force de travail et d'économie. Elle se mettrait à repasser pour le monde, à tuyauter les grandes collerettes du pays, un ouvrage difficile qu'elle savait parfaitement réussir au moyen d'un jeu de roseaux très fin. Ensuite, elle raconta dans sa lettre toutes les nouvelles choses que Petit Pierre savait dire et faire. Elle y mit, en termes très naïfs, sa grande tendresse pour l'absent. Elle y attacha une mèche de cheveux, coupée sur une petite tête brune très remuante, et puis renferma le tout dans une enveloppe de papier mince et écrivit dessus « À Monsieur Kermadec Yves, chef de hune à bord du Primauguet, dans les mers du Sud, aux soins du consul de France à Panama, pour envoyer à la suite du navire. » Pauvre petite lettre, qui sait, elle arrivera peut-être. Ce n'est pas impossible, ça s'est vu. Dans 5 mois, dans 10 mois, toute sa lie est couverte de cachets américains, elle arrivera peut-être fidèlement pour porter à Yves l'amour profond de sa femme et les cheveux bruns de son fils.